Bonsoir à toutes et à toutes. Les infos vous sont présentées aujourd'hui par Christophe Jubien, c'est-à-dire moi-même. Vendredi dernier, le conseil de prud'homme de Châteaudun a condamné la société Lati International à verser 1 million d'euros à ses anciens salariés de l'entreprise de Brou. Les 60 ex-Lati recevront chacun 15 000 euros pour avoir baigné dans l'amiante une grande partie de leur vie professionnelle. Pour les prud'hommes, Lati International a manqué à son obligation de résultat en ne préservant pas les demandeurs de l'inhalation de fibres d'amiante. Le verdict du tribunal a été salué par l'avocate des salariés, maître Élise Combes. C'est, dit-elle, la reconnaissance de ce qu'ils ont subi. Ils ont tous été exposés à l'amiante, quel que soit leur poste et leur ancienneté. L'avocate de Lati, en revanche, a estimé le jugement extrêmement sévère. Je cite, « Le montant alloué est bien supérieur à celui qu'obtiennent des salariés effectivement malades. » Maître Schneider-Macou n'exclut pas de faire appel dans un proche avenir. Les policiers de Dreux, BAC et enquêteurs ont démantelé un point de vente de drogue dans le quartier des Oriels, à quelques pas d'une école primaire. Cet endroit faisait l'objet d'une surveillance permanente depuis plusieurs semaines. Jeudi matin, les policiers sont passés à l'action. 5 personnes ont été interpellées à leur domicile à 6h du matin, parmi eux le chef présumé du réseau, un homme de 23 ans qui organisait l'approvisionnement et la vente. Un autre homme âgé de 35 ans est soupçonné d'avoir joué les nourrices et 3 mineurs ont été interpellés au titre de revendeurs. Les perquisitions policières ont été fructueuses. 1,3 kg de résine de cannabis et 650 grammes d'héroïne non encore conditionnée, ce qui à la revente représente une somme d'environ 25 000 euros. Les policiers ont aussi fait main basse sur 500 euros liquide. Les 5 drogués ont été placés en garde à vue. La nourrice, c'est-à-dire l'homme de 35 ans chez qui la drogue était entreposée, a été dirigé vers le service psychiatrique de l'hôpital de Dreux. Il ne semblait manifestement pas en mesure de répondre de ses actes. L'homme de 23 ans, lui, a été placé en détention à la prison de Saran. Il devait passer au tribunal correctionnel aujourd'hui. Nicolas Quillet, préfet d'Eure-et-Loire, entouré des représentants des forces de l'ordre du département, a présenté mardi le bilan de la sécurité routière 2014 en Eure-et-Loire. Le nombre de tués sur les routes eurelliennes a atteint son plus bas niveau jamais enregistré, avec 37 tués contre 41 l'an dernier. La baisse des tués se confirme depuis plusieurs années. Par contre, le nombre d'accidents est en hausse par rapport à 2013. On a enregistré sur un an une augmentation de 15% des accidents. C'est particulièrement vrai sur la zone police. Des explications du commissaire divisionnaire Éric Morena.
Alors, état des lieux, donc on a eu 6 morts, 6 décédés sur la route en 2014. On était à 5 l'année précédente. Sur les 6, comme je vous l'ai dit, il y a eu 2 piétons qui sont morts dans des conditions très, très dures. Le premier, en traversant, il a été percuté par un véhicule. Quant à la deuxième personne, elle a été percutée alors qu'un véhicule reculait sans la voir. Sur les blessés, on a une petite augmentation parce que le mode de calcul n'est plus le même, comme monsieur le préfet l'a indiqué. En revanche, on a moins de personnes hospitalisées. Donc globalement, on est à peu près sur les mêmes schémas d'accidents. Sachant qu'on a quand même, sur les circonscriptions de Chartres et Dreux, 244 accidents. Donc forcément des accidents où une personne subit des soins médicaux, comme l'a indiqué monsieur le préfet.
Pourquoi plus d'accidents dans les agglomérations? Vous avez une explication?
Non, alors ce qu'on a constaté aussi, on ne l'a pas dit, c'est qu'il y a eu des jours de beau temps qui ont été accidentogènes pour les deux roues. Parce que forcément, dans l'Eure-et-Loire, quand il fait beau, on sort en moto. Et là, il y a eu un peu plus d'accidents. Après, on a beaucoup de tôles froissées sur la rocade, dans l'agglomération, un petit peu sur les ronds-points, mais là, c'est des accidents sans gravité. Plus de tôles et des petits bobos, on va dire.
L'alcool et le cannabis, on leur parle là-dedans, évidemment.
Oui, dans pas mal d'accidents corporels, il y a une part d'alcool et de cannabis, puisque la loi impose de faire un prélèvement systématique de cannabis, enfin stupéfiant, c'est essentiellement le cannabis, pour toute personne mise en cause dans un accident.
Alors la politique que vous avez commencé de mettre en œuvre, vous l'avez donné un nom original, répression préventive. Alors qu'est-ce qui se cache sous cette dénomination?
L'idée, c'est qu'on fasse, je parlais notamment des sorties de boîte, l'idée c'est qu'il y ait pas mal de contrôle alcoolémie le week-end, pour inviter les jeunes à ne pas rouler en état d'ivresse et à éviter de se tuer. J'en ai suffisamment malheureusement ramassé au bord de la route dans mes précédents postes. Donc il faut que s'ils font la fête, l'un d'entre eux soit le capitaine de soirée et évite de boire.
Capitaine de soirée, pour l'instant, ça fonctionne moyennement, vous l'avez dit.
Ça marche pas trop mal. Ça commence à rentrer un petit peu dans les habitudes, dans les mœurs.
Vous avez donné l'exemple italien tout à l'heure. De quoi s'agit-il exactement ?
Un italiste, systématiquement, tous les week-ends, ils font des alcoolémies en sortie de boîte. Les boîtes de nuit sont en périphérie. Il y a une seule route. Et là, tous les week-ends, vous avez les carabiniers au bord de la route. Donc les jeunes ont tendance à faire attention.
Éric Morena, directeur départemental de la Sécurité publique d'Eure-et-Loir. L'Office de tourisme de Chartres accueille une exposition inédite proposée et organisée par le comité Saint-Pierre-Porte-Morard en partenariat avec le service archéologie de la ville. Cette expo met à l'honneur l'église Saint-Pierre dont le comité éponyme s'attache à la mise en valeur depuis plusieurs années, notamment lors des journées du patrimoine et via une étude de l'ancienne abbatiale soutenue par la ville de Chartres. L'église Saint-Pierre est remarquable à bien des égards, notamment ses vitraux qui rappellent étrangement les vitraux de la cathédrale. Explication de Philippe Debeau du comité Saint-Pierre.
Effectivement, les maîtres verriers de 1194 à 1200 sont à la cathédrale. Mais dans la deuxième partie du XIIIe siècle, ils sont à Saint-Pierre et ils nous font des vitraux très très beaux. Donc on a une continuité entre la cathédrale et Saint-Pierre pour une lecture des maîtres verriers du début du XIIe jusqu'à la fin. Au milieu du 14e.
Alors vous, je crois savoir, vous me l'avez dit tout à l'heure, que une de vos passions, c'est l'architecture. Elle est aussi très intéressante du point de vue architectural.
Oui, parce qu'il y a des séquencements qui sont intéressants. Notamment, on voit certains chapiteaux qui ont été fabriqués par les tailleurs de pierre de qu'on s'appelle de la cathédrale. Et puis, il y a quand même une séquence du 11e, du 12e, du 13e et du 15e siècle qui est tout à fait remarquable.
Oui, parlez-nous du jubé.
Alors, il y avait un jubé, effectivement, comme à la cathédrale. À la cathédrale, il datait du XIIIe siècle. Ici, il datait de la Renaissance. Ce jubé était très beau. Il a été cassé, bien évidemment. Il y a deux parties de ces pièces qui se trouvent au Louvre. Et nous avons le restant du jubé qui se trouve ici.
On peut imaginer que le Louvre les restitue à la ville de Chartres.
Pas vraiment, parce que ce sont des pièces exceptionnelles, mais pourquoi ne pas demander un moulage de façon à compléter les pièces que nous avons déjà et les exposer à Saint-Pierre.
On se dit que les touristes qui adorent la cathédrale, qui reviennent chaque année, forcément vont aimer l'église Saint-Pierre. Il faut simplement leur montrer un peu le chemin, quoi.
Bien sûr, parce que sur un plan architectural, Saint-Pierre, c'est le gothique flamboyant. C'est juste après la cathédrale. Et elle est élancée, elle est très belle, elle est très pure de ligne. On a des petits pinacles qui sont très travaillés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Saint-Pierre a aussi une autre chose. Il a une merveille. Une merveille, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'est une petite tourelle qui est à l'extérieur. Et cette petite tourelle n'est pas accrochée du tout, n'a pas de soubassement, n'a pas de fondation. Elle est seulement accrochée à l'édifice lui-même. Et des tas d'artisans venaient voir cette petite merveille par rapport à la prouesse technique.
L'église Saint-Pierre de Chartres dans tous ses états, c'est à la Maison du Saumon jusqu'au mercredi 18 mars, du lundi au samedi de 10h à 18h sans interruption et le dimanche de 10h à 17h. La ville de Châteaudun organise un concours photo ouvert à tous, photographes amateurs ou professionnels, petits et grands, dans le cadre du carnaval le 14 février. Deux jurys, un adulte et un jeune, récompenseront les trois plus belles photos du carnaval parmi la catégorie enfants et la catégorie adultes. Les gagnants se verront attribuer un tirage papier de leurs photos chez un photographe du loin, ainsi que la publication de leurs photos dans le magazine municipal, sur le site internet de la ville et la page Facebook. Le règlement de ce concours est en ligne sur www.ville-chateaudun.fr. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour une nouvelle édition départementale.
Liliane Dazin, la chronique du sport.
Encore une fois, cocorico, nous sommes champions du monde en handball. Les experts ont commencé par battre l'Espagne, qui était tenante du titre. Un match très serré, que j'ai écouté à la radio. J'ai su ce matin qu'il était retransmis. Bon, bref, à la télévision. Hier, c'était la finale contre le Qatar. Qatar qui avait une équipe, composée de toutes pièces. Il n'y avait que deux Qataris dedans. Un match très serré aussi, parce qu'à certains moments, il n'y avait plus qu'un point d'écart. Bon, finalement, les Français ont remporté le titre par 25 à 22. Le gardien de but, Thierry Omeyer, 37 ans, a été élu meilleur joueur du championnat du monde. C'est le 5e titre des Bleus depuis 1995. Claude Onesta, l'entraîneur, est aux anges. Il fallait voir son soulagement au coup de sifflet final, même si, quand même, depuis 3 minutes, on savait que le Qatar ne pouvait pas rattraper les 3 points d'écart. Et l'équipe sera reçue mardi à l'Élysée. Je continue mon cocorico. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champion du monde de danse, non, excusez-moi, champion d'Europe de danse en patinage artistique à Stockholm jeudi. C'était seulement leur 2e championnat d'Europe. Ils ont 19 et 20 ans. Ils patinent ensemble depuis l'âge de 8 ans. Et ils disent qu'ils ne réalisent pas encore qu'ils sont sur un petit nuage. Tennis, l'Open d'Australie. Aucun Français depuis les 8e de finale. Vainqueur, le même, Novak Djokovic, pour la 5e fois. Il a battu Andy Murray. Je rappelle qu'Andy Murray est entraîné par Amélie Mauresmo. Chez les femmes, Serena Williams, 19e succès dans un tournoi majeur. Elle va bientôt rejoindre Steffi Graf, pas tout à fait encore. Steffi Graf, c'était 22 succès. Rugby, Philippe Saint-André a communiqué la liste des 31 noms pour préparer le match face à l'Écosse samedi prochain. Début du tournoi des Six Nations. En réalité, ça commencera dès le vendredi. L'Angleterre qui va jouer, j'ai oublié contre qui. Top 14. Toulouse décolle. Il a battu Castres 13-9. C'est pas terrible hein, comme score. Si bien que Castres plonge à la dernière place. Le Stade français s'est incliné face à Oyonnax 13-15. Et puis Clermont a craqué face à La Rochelle 16-12. Troisième victoire du Racing Métro contre Lyon 13-11. Pas troisième contre Lyon à la fois, mais je veux dire troisième victoire en tout. Classement. Stade français 51 points, Clermont 51 points, Toulon 51 points. Ils sont trois devant. Aussitôt après, mais quand même à 6 points d'écart, hein, le Racing Métro est dans les profondeurs. Castres 29. Foot. Ligue 1. Privé de la casette, blessé, Lyon n'a pas réussi à marquer contre Monaco. Ça a été un match nul 0-0. Oh, la casette, il monte en flèche. Hein. Fin de la série des 7 victoires consécutives de Lyon. Willy Sagnol, qui est l'entraîneur de Bordeaux, a fait part de sa frustration après le nul, un partout contre Guingamp. Même s'il a trouvé que son équipe avait quand même mieux joué. Alors dans le classement, Lyon 49, Marseille 47 à égalité avec le PSG. Et dans les profondeurs du classement, ils sont deux. Metz et Lens, 21 points. C'est tout pour aujourd'hui.